6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bonjour Marguerite Caton.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Mylène Farmer ce matin.
Mais non, c'est une blague Guillaume, c'était vendredi dernier, vous l'avez gobée toute crue. Comme une otarie printanière gobrait un poisson
c'était
d'avril.
C'était donc un poisson d'avril.
Ce matin, nous allons faire de l'ethnologie, observer le patrimoine immatériel européen, explorer les arts et traditions populaires qui transforment ce lundi de Pâques et lundi 1er avril en un double jour de fêtes et de rites. Poissons, œufs, cloches, farces et aspersions sont donc au programme. Bonjour Laurent-Sébastien Fournier.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en anthropologie à l'université d'Aix-Marseille. Commençons par les œufs qu'on offre, qu'on chasse, en chocolat, en nougatine, la grande tradition de ce week-end pascal. D'où viennent-ils? Que symbolisent-ils?
Eh bien, les œufs de Pâques, c'est un symbole de germination. Et puis, il y a un peu une incertitude entre le masculin et le féminin. Des traditions anciennes, un fond pré-chrétien sans doute, mais qui a été ensuite adapté par le christianisme et qui a traversé les siècles jusqu'au folklore que l'on connaît aujourd'hui.
Et la chasse que font aujourd'hui les enfants de ces œufs renvoie aux pratiques médiévales de collecte. Qu'est-ce qui est attesté en la matière, Laurent-Sébastien Fournier, dans les textes ou dans l'iconographie?
Ah bien, La chasse aux œufs, elle existe, elle existe dès le Moyen Âge, et puis ensuite on a de plus en plus on s'approche du présent, et plus on a des preuves, quoi, hein, parce que en fait au départ, c'est plutôt un fond commun populaire qui est adapté, c'est aussi les gens qui à travers les almanachs, à travers les livres de colportage, qui s'approprient des motifs qui existent dans des textes sacrés. Donc il y a une popularisation de ces motifs et puis ensuite une réappropriation.
Arnold von Genep, le grand folkloriste du début du XXe siècle, mentionne, je crois, des collectes d'œufs réalisées par des enfants de chœur dans la Beauce qui chantaient un couplet, louangeur ou assassin, selon la qualité des dons, un peu sur le modèle des bonbons d'Halloween. Si l'on va vers l'Europe de l'Est et le monde orthodoxe, là, ces œufs sont peints, décorés, et je crois qu'ensuite, on les entrechoque.
Oui, on les entrechoque pour... finalement, s'assurer une symbolique de force, c'est un rite qui est propre aux jeunes garçons plutôt, hein. Donc il y a un enjeu de démontrer sa virilité à l'ouverture d'un cycle festif qui est le cycle de mai. Il faut penser que les mariages et la fréquentation des sexes sont interdites pendant tout le carême, doublement interdites, mais à partir de Pâques, s'ouvre la possibilité pour les garçons et les filles de se fréquenter, pour les garçons de courtiser les filles, et entrechoquer donc ces œufs entre garçons va finir par apporter un bon augure pour la réception de cette cour nuptiale qui commence à ce moment-là.
Vous l'avez dit, Laurent-Sébastien Fournier, les œufs sont donc des symboles de germination, de fertilité. À la fin du 19e siècle, les pâtissiers les mettent en chocolat, transformant ces rites en gourmandise. On trouve aussi à Pâques des gestes d'aspersion, durant la messe avec de l'eau baptismale, mais aussi dans certaines traditions, en Pologne notamment, lundi de Pâques, le premier qui arrose l'autre a gagné. Là encore, ce sont des gestes que vous reliez à la fertilité, au printemps?
Pas seulement, on peut avoir cette interprétation symbolique et qui renvoie au mythe, donc c'est vrai, il y a cette question de fertilité et de fécondité dans l'ouverture de la période printanière, mais de manière beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus simple, c'est aussi une manière de s'amuser au moment où on recommence à se fréquenter à l'intérieur de la communauté, parce que dans l'hiver, il faut penser que dans les sociétés traditionnelles, les gens sont séparés les uns des autres la plupart du temps, ils vivent dans leur famille, et puis à partir du moment de Pâques, c'est le retour à la vie communautaire qui prélude la vie estivale. Alors là, il y a un essor des pratiques ludiques. Et donc, évidemment, ça fonctionne parce que les gens s'amusent. Ça fonctionne pas seulement parce que c'est un symbole de fécondité.
J'aimerais qu'on dise un mot du poisson que l'on retrouve aussi bien en friture dans l'œuf, la cloche ou le lapin de Pâques que scotché sur le dos des adultes en poisson d'avril. Qu'est-ce qu'il fait là à la fin du carême, ce poisson, Laurent-Sébastien Fournier ?
Le poisson, il marque le carême, justement. Et là, on s'en débarrasse. Et si vous notez bien comment les choses se passent, ce poisson, on le colle dans le dos des autres, hein. Donc il est derrière nous à partir du 1er avril. Et en fait, ça c'est aussi toute une partie de la reprise des activités sociales au moment du printemps, avec un écho tardif là dans le calendrier des coutumes carnavalesques, puisque le carnaval permet que l'on se moque d'autres personnes dans la communauté. Et là, pour le coup, les blagues de 1er avril sont bien souvent des canulars, des farces, donc des moments où l'humour, en fait, utilise le malheur d'autrui, hein, même si c'est pas très très grave, mais enfin, il y a quand même cette idée de se moquer de l'autre qui vient du carnaval.
Oui, vous le dites, le 1er avril, donc ça se rattache au rite carnavalesque. C'est une date, je crois, très importante dans les pays, enfin très importante au moins, réellement pratiquée dans les pays anglo-saxons.
Dans les pays anglo-saxons, April Fool, hein, le fou d'avril, on appelle ça donc les folies d'avril. Donc ça renvoie très clairement à l'ancien début de l'année chrétienne qui était fixé justement à la fin mars ou au 1er avril jusqu'au 16e siècle. Donc c'est une manière de continuer à fêter l'année, le début de l'année au printemps. Et on en trouve donc des échos à la fois dans le monde chrétien, puisqu'il y avait cette tradition du rire pascal qui émaillait les messes de Pâques, et puis le début de certains humours initiatiques qui va renouveler, en fait, hein, le rire permet de renouveler dans la tradition populaire.
On comprend qu'on a une superposition des rites païens, chrétiens, qui sont aujourd'hui très largement sécularisés. Pourquoi ces traditions persistent-elles, Laurent-Sébastien Fournier ? Est-ce que c'est parce qu'elles sont ludiques, parce qu'elles proposent des loisirs ?
Ça, évidemment, c'est un élément de réponse, mais pas le seul. Donc il y a le fait qu'elle s'adresse à des petits-enfants. Donc là, on est toujours content de berner les enfants avec ces farces. Et puis après, on peut pas non plus négliger l'aspect invention des traditions et l'aspect économique que vous avez mentionné. Enfin, les corporations de pâtissiers, évidemment, ont accompagné la transmission de ces coutumes. Donc, il y a tout un faisceau d'éléments qui contribuent à les maintenir actives, même si elles sont très anciennes dans leurs origines.
Merci beaucoup Laurent-Sébastien Fournier, merci de tous ces éléments. Je rappelle que vous êtes anthropologue, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille.